Chapitre 55. Bogny-sur-Meuse, Ardennes. La Skoda ralentit en approchant du panneau d'entrée d'agglomération. Le centre de Bogny-sur-Meuse s'ouvrait face à eux, de l'autre côté de l'imposant pont d'acier enroulé autour du méandre de la Meuse. Christophe conduisait, vigilant, habitué à ne rien entendre du ronronnement du moteur ou de celui des autres véhicules. En cas d'urgence, klaxon, sirène de police ou d'ambulance, Amos, assis avec la gamine sur la banquette arrière, l'avertirait. Avant de franchir le fleuve, ils s'arrêtèrent devant un groupe d'enfants qui longeaient le chemin de halage, de leur école au terrain de sport. Quand Christophe et Amos avaient acheté leur Skoda Karoq, ils avaient choisi un modèle à vitres fumées, pour éviter au maximum les regards insistants des passants. Seul le verre du pare-brise, hélas, n'était pas tenté. Les gamins qui traversaient devant eux traînaient exagérément, les observant avec une curiosité malsaine, comme deux phénomènes de foire enfermés dans un bocal. Christophe résista à l'envie de démarrer et de faire un strike. Des pulsions de violence presque incontrôlables l'envahissaient de plus en plus souvent, le transformaient petit à petit en cette bête sauvage que les gens voyaient en lui. C'était leur faute à tous depuis l'incendie. Tous l'avaient regardé comme un lépreux, l'avaient évité comme s'il était contagieux, considérant que sa laideur le rendait forcément monstrueux. C'était leur faute, uniquement leur faute, s'il avait fini par le devenir vraiment. Ils mirent quelques minutes à sortir des rues tortueuses de Bogny-sur-Meuse, puis s'engagèrent dans les lacets serrés qui menaient au belvédère des quatre fils Aymon. Ils ne croisèrent aucune voiture dans la montée, par ce temps gris qui aurait pu avoir envie de grimper jusqu'au panorama. Le paysage semblait pris en étau entre les nuages qui rasaient les cimes boisées et une brume de hammam qui s'élevait au-dessus de la Meuse. Les touristes avaient sans doute tous migré vers Charleville-Mézières. Les flics avaient dû finir par trouver le diable à ressort dans la poubelle. La place du Cal avait dû être libérée. Trop tard. Leur plan de diversion avait parfaitement fonctionné. Ils s'étaient même débarrassés de façon inespérée de cette fouineuse de capitaine de gendarmerie. Tout en tenant le volant d'une main, Christophe écrivit sur l'écran tactile accroché au-dessus du tableau de bord. « Tu peux lui retirer son baillon. » Christophe avait craint que la gamine appelle au secours dans le village. Désormais, elle pouvait bien crier autant qu'elle le voudrait, plus personne ne l'entendrait. Et lui encore moins. Il vit dans le rétroviseur Amos toucher à tâtons les cheveux de la gamine, descendre le long de son nez et de ses joues, puis arracher d'un coup le sparadrap. Il vit la bouche de la fillette s'ouvrir en grand. Sans doute avait-elle poussé le plus puissant des hurlements, et pourtant l'habitacle restait toujours aussi silencieux. La surdité avait du bon parfois. Si on avait pu l'opérer, lui rendre Louis, Christophe aurait-il pu supporter les cris des gamins, les aboiements des chiens, les conversations sans fin? Depuis longtemps, Christophe plaçait sur le même plan la gueule d'une vache, la bouche d'un homme et le bec d'un piaf. En sortait le même tissu de conneries, meuglé par peur du vide. « Que va-t-on faire d'elle ?» écrivit Amos. Christophe ne répondit pas. Il traversa le parking désert et roula au pas jusqu'aux derniers arbres du sous-bois. La place de stationnement offrait une vue dégagée sur les quatre pics de schiste et la statue du belvédère, même si un fin voile de brouillard empêchait de voir au-delà. Il coupa le moteur et se retourna. Lola, contorsionnée sur la banquette arrière, essayait désespérément d'ouvrir la portière. Amos tentait vainement de la maîtriser, mais la gamine avait compris comment prendre l'avantage sur un kidnappeur aveugle, moins vif qu'elle, et qui ne disposait que d'une main. « Elle ne se calme pas !» écrivit Amos. « Elle dit qu'elle veut voir sa maman, et que son papa va nous tuer !» Christophe sourit malgré lui. « Trouve quelque chose, tu n'as qu'à lui raconter une histoire !»« Quoi ?»« Ça devrait la calmer, les gamines adorent ça !» Il s'amusa derrière son volant à observer la fillette. Elle frappait son frère de toute la force de ses petits poings. Une véritable furie. Pour continuer d'écrire, Amos devait tendre le bras et la repousser. « Quelle histoire ?» Christophe consulta sa montre. Ils avaient quitté le wagon atelier depuis 30 minutes. 27 exactement depuis qu'ils avaient emprunté le tunnel et étaient remontés dans la Skoda, dissimulés dans un chemin de traverse au bout de la route goudronnée. 26 depuis qu'ils avaient vu les deux sauveurs aux yeux gris sauter du taxi, puis courir le long des rails de la voie ferrée abandonnée. Ces deux pompiers étaient-ils arrivés à temps pour sauver les femmes du brasier? Oui, sans doute. Christophe et Amos auraient-ils pu les en empêcher? Non. Pas lors d'une lutte à armes égales. Christophe était conscient de leur handicap. Il n'était pas de poids pour stopper ces deux hommes. Et après tout, ce n'était pas l'essentiel. Le plus important, c'est que ces deux fantômes étaient enfin sortis de leur cachette. Après tant d'années à les traquer, ils avaient enfin mordu à l'hameçon. Désormais, il ne restait plus qu'à les attirer sur un terrain plus favorable pour en terminer. Christophe venait d'ailleurs d'avoir une excellente idée. « Raconte-lui l'histoire du trou à laine, » répondit-il enfin à son frère. « Le trou à laine? Pourquoi? Tu verras. » Christophe observa son frère et la fillette dans le rétroviseur. Plus les lèvres de son frère bougeaient et moins les coups de poing et de pied de Lola pleuvaient sur lui. Les gestes hystériques de la gamine ralentissaient, s'espaçaient, perdaient en intensité pour finalement s'apaiser. Du plus loin que Christophe s'en souvenait, Amos avait toujours su merveilleusement raconter les histoires. Son frère possédait une voix hypnotisante, douce et apaisante. La dernière fois que Christophe l'avait entendu, c'était il y a plus de 40 ans, sur les berges de la Radboussa, dans un champ près de Pilsen. « Tu vois, Lola ?» expliquait Amos sans lâcher la fillette. « Après le parking, il y a une grande pelouse, et tout au bout, un escalier qui monte jusqu'à une énorme sculpture, la statue de 4 chevaliers et de leur cheval Bayard. Ensuite, il y a des barrières pour ne pas tomber de la falaise au-dessus de la rivière. Mais au milieu de la plaine, devant nous, même si on ne peut pas le voir, il y a un grand trou, encore plus dangereux. Une grotte, si tu préfères. Tu sais ce que c'est qu'une grotte ?» Lola hocha la tête pour dire oui, méfiante. « Cette grotte, on l'appelle le trou à laine. Sais-tu pourquoi ?» Lola secoua la tête pour dire non, tout aussi méfiante. On raconte qu'il y a longtemps, au Moyen-Âge, enfin au temps des princesses et des chevaliers si tu préfères, des voleurs avaient l'habitude de capturer un agneau parmi les troupeaux qui broutaient dans les montagnes alentour. Un seul agneau, un très jeune mouton, une fille de préférence, une agnelle. Ensuite, ils attachaient l'agnelle à un piquet, au bord de la grotte. Sais-tu ce que faisait l'agnelle quand elle se retrouvait ainsi, toute seule et prisonnière ? Lola avait totalement cessé de battre des pieds et des mains. Elle fixait cet homme bizarre aux yeux vides, qui parlait sans la regarder. Il lui faisait moins peur que l'autre, celui qui n'entendait rien.
« Elle appelait sa maman ?»«
Exactement. Tu es une petite fille très intelligente. » L'agnelle appelait sa maman. Les agneaux et les agnelles peuvent bêler très fort, très très fort, et leur maman est capable de reconnaître leur bêlement entre 100 autres, à des kilomètres. Alors la maman, la brebis, se précipitait pour aller retrouver sa fille. Elle se mettait à galoper dans la montagne, et tout le troupeau suivait, car il n'y a rien de plus bête qu'un mouton. Quand l'une fonce tout droit quelque part, tous les autres suivent.
« Comme les garçons à la récréation ?»«
Oui, si tu veux. » Donc, je te disais, le troupeau galopait, la maman brebis en tête. Un troupeau était parfois composé de plusieurs centaines de moutons, et quand une agnelle appelait sa maman, pas un seul chien de berger n'aurait pu l'empêcher d'aller retrouver son bébé pour le sauver. Alors la maman arrivait toujours la première au bord de la grotte, mais le reste du troupeau continuait de courir derrière elle et ne pouvait pas s'arrêter aussi facilement. Les derniers poussaient les premiers. Les premiers étaient alors obligés d'avancer, c'était la cohue, ça bêlait de tous les côtés. Au final, la plupart se trouvaient entraînés et un à un basculaient dans la grotte. Lola tressauta. Elle imaginait les moutons tomber comme des flocons. « C'est toujours idiot, un troupeau !» poursuivit Amos. Alors les voleurs qui guettaient au loin arrivaient très vite, descendaient dans la grotte avec des cordes et des couteaux et récupéraient la chair des moutons, qui est très bonne à manger. Ils pouvaient ainsi voler de la viande de dizaines de bêtes sans avoir à courir après dans les montagnes. Il leur suffisait de capturer une seule agnelle. Les voleurs laissaient le reste au fond de la grotte, les os, la graisse et surtout la laine, qui ne valait pas assez cher et était trop lourde à emporter. C'est pour cela qu'on l'appelle depuis toujours le trou à laine.
« Il y en a encore ?»«
De la laine ? Je ne sais pas. C'était il y a très longtemps. »«
C'est triste pour les moutons, et pour la petite agnelle surtout. Je n'aime pas qu'on les mange, ni qu'on les pousse dans un trou. »
Amos réfléchissait à trouver une suite pour son histoire, une suite moins triste. La laine au fond du trou aurait pu former un cocon, les nouveaux moutons qui y tombaient rebondirent dessus comme sur un matelas de coton. Il sentit sa tablette vibrer sous sa main droite. « Dis-lui que puisqu'elle est gentille, elle va pouvoir appeler sa maman. » Immédiatement, Amos se méfia du message de son frère.
« Pourquoi ?»«
Si Vicky Malzieu est sortie vivante du brasier, La première chose qu'elle fera sera de chercher sa fille, puis de téléphoner aux flics. Elle appellera d'abord la capitaine Marelle, mais ça m'étonnerait qu'elle décroche. » Christophe attrapa son téléphone sur le tableau de bord. « Avant qu'elle ne contacte d'autres policiers, on va la rassurer. On va lui envoyer une petite vidéo. Tu ne trouves pas que sa petite Lola est aussi charmante qu'une Agnelle ?